Ce podcast vous est proposé par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation.
Bonjour et bienvenue à l'écoute des podcasts du film annuel de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Nos podcasts sont construits en lien direct avec les thématiques des fiches du film annuel des personnels de direction afin d'enrichir cette ressource et d'accompagner nos collègues dans leur pilotage au quotidien. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire un focus sur les aspects juridiques du conseil de discipline. Pour approfondir ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Mata-Duvigneau, maître de conférence en droit public à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, président de l'Observatoire du droit de l'éducation, coordinateur du dictionnaire critique du droit de l'éducation, publié aux éditions Maré Martin, et expert associé de l'IH2EF. Bonjour Raphaël, merci beaucoup de nous faire le plaisir de participer au podcast du film annuel et d'accepter de nous éclairer sur les aspects juridiques très nombreux et incontournables pour mener à bien un conseil de discipline.
Bonjour Maggie, bonjour à tous, c'est un plaisir d'intervenir aujourd'hui. Alors, il est bien loin le temps où le décret du 30 août 1985 relatif aux EPLE se bornait à édicter que la commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement, sans préciser la moindre règle procédurale devant être respectée devant lui, ni les sanctions pouvant être prononcées. Aujourd'hui, l'absence de cadre normatif ne concerne plus, et encore, que les punitions, qui sont des mesures dans l'intérieur, néanmoins soumises aux principes généraux du droit. Mais mes propos concerneront ici exclusivement les sanctions disciplinaires.
Qui est compétent pour déclencher les poursuites disciplinaires ?
Alors, l'article R. 421-10 du Code de l'éducation assigne au chef d'établissement, en raison de sa fonction, la responsabilité de l'ordre dans l'établissement. Il veille ainsi au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur. En raison de son statut et de ses fonctions, le chef d'établissement décide seul s'il est nécessaire d'engager une poursuite disciplinaire à l'encontre d'un élève, éventuellement à la demande d'un membre de la communauté éducative. J'insiste sur un point. Il décide d'engager les poursuites ou de ne pas les engager, en vertu d'un principe fondamental en droit, celui de l'opportunité des poursuites. Cela relève donc de son propre pouvoir d'appréciation. Par contre, le chef d'établissement doit, théoriquement, obligatoirement engager une procédure disciplinaire dans les cas suivants. Quand un élève est l'auteur de violences verbales à l'égard d'un membre du personnel d'établissement, quand il commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève, quand il commet un acte portant une atteinte grave au principe de la République, notamment en matière de laïcité, quand il commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement.
Alors, un chef d'établissement peut-il engager des poursuites contre n'importe quel élève ?
La réponse est négative. L'inscription de l'élève dans l'établissement est une condition sine qua non de la compétence du chef d'établissement ou du conseil de discipline. Lorsque les faits constitutifs d'une faute se sont produits en dehors de l'établissement et hors temps scolaire, le critère retenu par la jurisprudence administrative pour apprécier la compétence disciplinaire est le retentissement de ces faits sur la vie scolaire de l'établissement. Ainsi, une agression à caractère sexuel commise dans un autocar après les cours par un élève sur un autre élève légitimera la compétence du conseil de discipline et du recteur en appel. Il en va de même d'un élève s'étant livré à des menaces, actes de violence, rackets ou pressions diverses à l'encontre de plusieurs de ses camarades. Le juge administratif valide ainsi la sanction bien que certains faits aient eu lieu en dehors de l'enceinte du collège, car elle n'en était pas moins susceptible d'interférer gravement dans son fonctionnement. Le raisonnement sera le même, par exemple, en cas de harcèlement en ligne.
Donc, quelles sont les différentes sanctions qu'il est possible de prendre à l'encontre d'un élève de collège ou de lycée ?
Là encore, je me réfère au Code de l'éducation. Il existe une série de sanctions qui sont explicitement prévues et qui doivent être explicitement mentionnées dans le règlement intérieur de l'établissement. Alors, dans le sens de la gradation, croissant, l'avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation inférieure ou égale à 20 heures, l'exclusion temporaire inférieure ou égale à 8 jours de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, et enfin l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. On précise par ailleurs que la mesure de responsabilisation et l'exclusion temporaire ou définitive peuvent être assorties d'un sursis partiel ou total.
Ces sanctions obéissent-elles aux mêmes règles procédurales ?
Alors, oui et non. C'est un peu une réponse de Normand. Il faut se référer à l'article R511-14 du Code de l'éducation. Pour faire simple, le conseil de discipline peut être saisi pour toutes les sanctions prévues au règlement intérieur. Et il doit l'être obligatoirement pour l'exclusion définitive, ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. Sinon, en dehors de ces cas-là, le chef d'établissement peut prononcer seul et sans recourir au conseil toutes les autres sanctions. Dans ce cas, il est possible d'exercer, pour les destinataires de la future sanction, contre décision prise seule, soit un recours administratif préalable, qu'on appelle gratio hiérarchique, dans les 2 mois suivant la notification de la décision, soit un recours contentieux devant le juge administratif, là aussi dans les 2 mois suivant la notification de la décision. Sur ce dernier point, se situe le véritable danger contentieux pour le chef d'établissement. En effet, le juge d'excès de pouvoir est inflexible sur le respect des droits de la défense, notamment quant au respect du délai laissé pour que l'élève et le cas échéant ses représentants légaux présentent leurs observations. Pour les sanctions les plus lourdes, mon conseil, et pour sécuriser les décisions, il vaut mieux recourir au conseil de discipline, même si cela est très chronophage.
Alors finalement, juridiquement, qu'est-ce que le conseil de discipline, que ce soit au collège ou au lycée ?
Alors, le conseil de discipline, c'est une instance interne à l'établissement. Il est saisi par le chef d'établissement, donc lorsqu'un élève a transgressé le règlement intérieur de l'établissement de façon grave, imposant donc sa composition.
Si vous le voulez bien, pour bien comprendre l'ensemble des questions juridiques qui se posent, nous aborderons le conseil de discipline en 3 temps. Avant la réunion du conseil, pendant la réunion du conseil et enfin après.
Oui, volontiers.
Alors sur cette première partie, avant la réunion du conseil de discipline, nous partons ici du principe que désormais le conseil de discipline sera saisi. Donc la première question, c'est est-ce qu'il est toujours interne à l'établissement ?
Alors, en principe, le conseil de discipline est toujours interne à l'établissement, mais le Code de l'éducation prévoit des exceptions aux articles D511-25 et R511-44. C'est un peu compliqué. Premièrement, le chef d'établissement peut, en fonction de son appréciation de la situation et des risques de troubles qu'elle peut apporter, décider de délocaliser le conseil de discipline dans sa composition réglementaire, mais dans un autre établissement, ou bien dans les locaux de la DSDEN. Deuxièmement, il est possible, le cas échéant, de saisir ce qu'on appelle le conseil de discipline départemental. Pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, et si la sérénité et la sécurité du conseil de discipline semblent compromises, le chef d'établissement peut en effet saisir l'IADAZEN en vue de réunir ce conseil de discipline départemental. Le DAZEN doit donc être saisi lorsque les motifs suivants sont réunis. Des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, des élèves faisant l'objet de poursuites pénales, lorsqu'il y a de risque pour la sérénité du conseil, l'ordre ou la sécurité de l'établissement, ou encore pour des faits d'atteinte grave aux valeurs de la République et notamment au principe de laïcité. Le conseil de discipline départemental est alors présidé par l'IADAZEN et sa composition est arrêtée par le recteur de l'académie.
Il semble que les règles de convocation du conseil de discipline soient très strictes.
En effet, afin d'abord d'assurer la meilleure information possible des membres du conseil et ensuite de permettre à l'élève et à ses représentants de se préparer dans le respect des principes généraux du droit et notamment le respect du contradictoire et des droits de la défense. C'est le chef d'établissement qui adresse les convocations et il précise à toutes les personnes concernées les faits reprochés. Les convocations sont émises au moins 5 jours francs avant la séance. On ne décompte ni le jour d'envoi de la convocation, ni le jour de la réunion du conseil de discipline. Ça, c'est très important. Ce délai est également important, car son non-respect entache d'illégalité la sanction prononcée. Il y aurait ici une violation des règles de procédure. Les convocations sont communiquées, donc, par pli recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. Pour l'élève en cause, ses représentants légaux s'il est mineur, et la personne chargée d'assister l'élève dans sa défense, le cas échéant. Et ensuite, elle est envoyée, les convocations sont communiquées par tout moyen, y compris par courriel ou par remise en main propre, au moins 5 jours avant la séance, pour tous les autres membres du conseil de discipline. Je ne reviens pas dessus car le film annuel le mentionne parfaitement, mais le contenu de la convocation diffère selon la personne à laquelle elle s'adresse. L'élève en cause, ses représentants légaux, les membres du conseil de discipline, l'avocat, le défenseur éventuel. Et donc, chaque catégorie de membres du conseil de discipline ou chaque personne présente l'ordre du conseil de discipline reçoit une convocation, j'ai envie de dire, personnalisée. Pour déterminer le contenu précis de chaque type de convocation, je renvoie à l'article D511-31 du Code de l'éducation.
Et de la même manière, le dossier disciplinaire obéit lui aussi à des règles très strictes.
Eh oui, c'est une évidence. Là encore, pour plus de détails, je vous renvoie cette fois-ci non à l'article D511-32 qui détermine assez précisément les pièces qui doivent être présentes dans le dossier concernant l'élève, d'une part, et les faits qui lui sont reprochés, d'autre part. Quelques éléments. Le dossier de l'élève doit contenir, outre l'état civil, les éléments sur sa scolarité antérieure, comme les bulletins, les informations sur son comportement dans l'établissement, ou les absences, eh bien, il doit concerner les faits à l'origine des poursuites. C'est quand même le minimum. On doit trouver le rapport du chef d'établissement, dans lequel il rappelle avec précision, j'insiste, hein, avec précision, les faits ayant motivé la convocation du conseil de discipline, les dates, les lieux, l'heure ou les heures, les circonstances et la description détaillée des faits et les personnes concernées. Je précise une chose, car je l'ai vu en contentieux. Si les faits concernent des propos tenus, quel que soit le contenu des propos, même s'ils sont orduriers, outrageants ou blessants, les faits doivent être obligatoirement mentionnés précisément. Il ne suffit pas de dire « pour des propos blessants ». Non, il faut dire effectivement le contenu des propos. Je continue. Les témoignages aussi, les rapports, les déclarations des parties concernées, qui doivent toutes aussi être datées et signé. Conformément au code des relations entre le public et l'administration et en vertu des principes généraux du droit, eh bien, l'élève, ses représentants légaux et son défenseur doivent pouvoir consulter l'ensemble des pièces du dossier qui sera examiné par le conseil de discipline. Et un défaut de consultation entraînera l'annulation de la décision pour, là encore, violation de la procédure.
Merci beaucoup Raphaël pour ces précisions très utiles. Alors, entre le déclenchement des poursuites disciplinaires et la réunion du conseil de discipline, quelles sont les mesures que le chef d'établissement peut ou doit prendre ?
Alors, premièrement, avant la tenue du conseil de discipline, le chef d'établissement doit prévenir la DSDEN afin que la réaffectation de l'élève, s'il est exclu définitivement, soit assurée dans les meilleurs délais dans notre établissement ou bien au CNED. La raison est simple, c'est le respect de l'obligation scolaire qui incombe à l'État, d'une part, et d'autre part, c'est la continuité du service public de l'enseignement. Deuxièmement, en vertu de ses prérogatives de responsable de l'ordre public au sein de l'établissement, et en vertu de l'article, cette fois-ci, D511-33, le chef d'établissement peut interdire l'accès de l'élève à l'établissement et, en cas de nécessité avérée, dans l'attente de la comparution devant le conseil de discipline. Il s'agit d'une mesure conservatoire, ce n'est pas une sanction ni une mesure d'exclusion. Dans ce cas-là, l'élève mineur est remis à ses représentants légaux. Le chef d'établissement notifie cette mesure conservatoire par écrit et donc la remet aux représentants légaux, soit en main propre contre-signature, indiquant les dates de début et de fin de la mesure. Comme je l'ai dit, cette mesure n'est pas une sanction, mais elle constitue le refus d'un droit d'accès à la scolarité. Et donc, par conséquent, cette mesure doit être motivée. Cette motivation est obligatoire en vertu de l'article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Je précise également que le chef d'établissement a aussi la possibilité d'interdire l'accès de l'élève à l'établissement lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire. Et cette fois-ci, l'interdiction sera fondée sur l'article R421-10-1 du Code de l'éducation. Et que cette interdiction est au minimum de 2 jours ouvrables, correspondant au délai accordé à l'élève pour présenter sa défense.
Alors, je vous propose de faire un pas de côté et d'aborder un cas extrême, mais qui est malheureusement courant. Comment s'articule, par exemple, une procédure pénale et une procédure disciplinaire ?
Oui, en effet, c'est relativement courant et de plus en plus, malheureusement. Alors, les procédures pénales et disciplinaires sont en principe indépendantes. Toutefois, la faute légitimant l'engagement d'une procédure disciplinaire peut également recevoir une qualification pénale. Mais, dès lors que la matérialité des faits est établie, la procédure disciplinaire peut s'engager et l'édiction d'une sanction n'attente pas à la présomption d'innocence, bien qu'une procédure pénale soit en cours. De même, le prononcé d'une sanction pénale n'interdit pas le prononcé d'une sanction disciplinaire et n'attente pas au principe non bis in idem, c'est-à-dire que les deux sanctions étant de nature différente. L'absence de poursuite par le procureur de la République n'interdit pas non plus l'engagement d'une procédure disciplinaire, la faute, bien qu'établie, pouvant ne pas constituer une infraction pénale. L'autorité disciplinaire dispose d'ailleurs d'une marge d'appréciation lorsqu'elle est en présence d'un jugement de relax. Le juge administratif considère ainsi que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher au motif d'un jugement de relax tiré de ce qu'un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés. Il appartient, je cite toujours le juge, à l'autorité administrative d'apprécier si les faits étaient suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifiaient l'application d'une sanction disciplinaire. Donc c'est très important. Un jugement de relax au pénal n'interdit pas une poursuite disciplinaire au sein de l'administration. Ce qui vaut aussi pour les agents publics de manière générale. En cas de contestation sérieuse sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou devant le conseil de discipline départemental et qu'il fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, sur le fondement de l'article D511-47, peut être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée, la juridiction pénale, hein, évidemment. Enfin, en cas de sanction disciplinaire infligée par erreur, au vu des résultats d'une enquête judiciaire ou du prononcé d'une décision de relax, l'administration se doit de retirer celle-ci par application de l'article L243-4 du Code des relations entre public et administration. Je donne un exemple. Si un élève a été exclu de l'établissement pour vol, alors qu'au pénal, après plainte, il apparaît que ce n'est pas cet élève qui a commis le vol, eh bien, évidemment, la sanction disciplinaire n'a pas lieu d'être. C'est pour ça qu'elle peut être retirée.
Bien, merci beaucoup pour cette première approche et je vous dis à tout bientôt pour la suite de ce podcast Expertise juridique de l'affiche du Conseil de discipline du film annuel des personnels de direction. Dans cette seconde partie, nous aborderons la suite chronologique du Conseil de discipline, la tenue du Conseil et ce qui se passe après ce Conseil. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, sur lequel vous retrouvez également de nombreuses ressources, dont l'ensemble des fiches du film annuel. À tout bientôt pour notre prochain podcast et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.